Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Marseille vue sur les pauvres, épisode 2, l'empereur et la couturière. Bienvenue dans Programme B. L'empereur, c'est le nom qu'on donne à la maison empereur, vieille quincaillerie de Marseille. Pour les touristes en recherche d'exotisme social, c'est le must. Une quincaillerie où on chine les objets du quotidien du siècle dernier. Mais avant de retourner à l'empereur, je vous amène chez Sylva. Sylva habite la rue d'Aubagne. Elle est voisine des immeubles qui se sont effondrés et en cette belle après-midi d'été, le bruit de sa machine à coudre rythme les allées et venues des touristes de sa rue.
Marseille, c'est très joli, mais bon, les touristes y viennent. À un moment donné, ils ne venaient pas ici, les touristes, avec beaucoup de casse. Beaucoup.
Les touristes, ils viennent beaucoup depuis quand?
Depuis bien 6-7 ans, on les voit plus, de touristes. Avant ça, on ne les voyait pas. Eh oui, Derdergan Silva, je fais des retouches et du stoppage. Je reprends le tissage des tissus qui sont abîmés.
Et vous êtes marseillaise à la base?
Non, d'origine arménienne. Ça fait 53 ans que j'habite à Marseille. Le quartier Noailles, il faut que ça soit comme avant, qu'on puisse aller, nous-mêmes. Parce que c'est vrai que bon, on n'ose pas trop aller.
À Noailles?
À Noailles.
Pourquoi?
Il faut que ça soit mieux, je vous le dis, Noailles, il faut que ça soit mieux. Oui, plus surveillé. Eh, parce que on ne peut pas prendre de sac pour aller à Noailles. Oui, on a toujours peur de se faire voler ou le téléphone ou le porte-monnaie, parce que mon mari, deux fois, il s'est fait voler le porte-monnaie.
C'était comment Noailles à l'époque, quand vous êtes arrivé?
À l'époque, magnifique, vraiment magnifique. Le bon poisson, on pouvait aller acheter tout ce qu'on voulait. Et bon, on se régalait tous aller dans ce marché. Et maintenant, bon, on vous dit franchement, on n'ose pas trop aller.
Des tonnes de gravats. Voilà en quelques secondes ce que sont devenus les immeubles des numéros 63 et 65 rue d'Aubagne. Le 63 en arrêté de péril a entraîné dans sa chute le 65 où vivaient 12 personnes. À quelques mètres de là, le choc initial laisse la place à la colère.
Ils laissent mourir nos quartiers exprès et tout s'écroule. Il y a ma copine qui est sous les décombres. Tout ça, c'est parce qu'ils laissent mourir la ville exprès.
Je me rappelle, j'étais sur l'autoroute. J'étais partie en Arménie. On me téléphone, on me dit « Tu peux plus rentrer dans la rue. Tout est fermé. » Bon, de toute façon, on se doutait, parce que un mois avant, il y a eu un accident, vous savez, là. Il y a des pierres qui sont tombées de la toiture et personne n'a tenu compte. Personne. Et ils auraient dû faire quelque chose bien avant. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, j'ai trop mal au cœur pour tous ces gens qui sont morts. Beaucoup qui sont morts, et ça me fait très mal, parce que c'est des gens que je connaissais.
C'était vos voisins, en fait?
C'était des voisins, c'était des clients qui venaient chez moi. C'était une femme de ménage qui travaillait en face, une femme adorable. Eh bien, voilà, je sais pas quoi vous dire. Ils attendent toujours à la dernière minute. À la dernière minute, c'est trop tard. Tant qu'il n'y a pas de danger, personne ne bouge. Quand il y a eu ce danger, eh bien, Dans la journée, je ne sais pas, ou dans la semaine, on était 1500 déjà à l'hôtel. Moi-même, j'étais à l'hôtel.
Vous êtes resté combien de temps à l'hôtel avant de revenir ici?
1 mois et 10 jours.
Et vous êtes quand même revenu à Noailles?
Ben, je suis revenu à Noailles parce que j'aime bien ce quartier. Disons, c'est mon quartier. Hein?
Vos habitudes, vos voisins?
J'ai mes habitudes, j'ai mes voisins, j'ai tout le monde ici. Bon, on se connaît, les commerçants, ils sont gentils. Bon, et je sais pas ce qu'ils vont faire. On est au courant de rien. De rien, ce qu'ils vont faire.
Et la mairie vous dit pas comment ils vont...
Non.
Et vous, vous habitez au-dessus du magasin?
Oui, oui.
Vous avez peur pour votre immeuble ou ça va?
Ben non, on m'a dit que ça va. Mais le matin, quand je me réveille, je me dis, tiens, je suis là, c'est que ça va.
Devant la maison Empereur, il y a un écriteau pour décrire un peu l'histoire de la quincaillerie. Donc, il est écrit... La maison Empereur est une des plus vieilles quincailleries de France. François Empereur, taillandier, s'installe d'abord dans la quincaillerie créée en 1827 par Eugène Bolfrat, près de la Bourse. La maison compte plus de 30 000 références avec 4 spécialités importantes, la quincaillerie générale, l'art culinaire, la coutellerie et la droguerie.
Ben Empereur, c'était un peu la droguerie marseillaise où tous les bricoleurs pouvaient y trouver des choses plus classiques, utiles, aux choses invraisemblables qu'on n'utilise pas mais dont on a besoin une fois dans sa vie et qu'on pouvait trouver à Empereur avec des prix de quincaillerie, avec des prix classiques, quoi, très abordables. Aujourd'hui, Empereur ben, suit un peu changement du quartier. Ça devient un peu un musée. D'ailleurs, ils ont l'activité de musée sur certaines choses. Enfin, moi, je pense que c'est une boutique qui s'exclut de la vie du quartier, qui a une grosse activité économique, mais sans les gens du quartier.
À cause des prix?
Ah oui, c'est hors de prix ici. Ben, je sais pas, tout à l'heure, on verra combien on va payer notre café ici. Je vois que la mode d'Arcopal revient. 2 euros l'assiette, quoi. C'était le service qu'on avait nous dans la cuisine pour tous les jours, service de table. Donc forcément, ça ne s'adresse qu'à une clientèle qui est peut-être la clientèle nouvellement installée, les habitants nouvellement installés sur ce territoire, mais absolument pas les gens qui sont victimes du mal logement, de l'insalubrité, du chômage, enfin voilà quoi, et qui sont majoritairement présents sur ce quartier.
Que je suis passée devant l'Empereur, c'est la vieille devanture qui m'a attirée. J'ai senti un à un les savons de Marseille, ceux aux fleurs et ceux à la découpe. Les verts à l'huile d'olive, les vrais de vrais. Je cherchais du savon au lait d'anesse parce qu'on m'a dit que c'était bien. Les prix affichés étaient fous et il y avait rupture de stock. Comme les autres, j'irai d'aller en aller, sans chercher quelque chose de précis, sans avoir besoin de grand-chose. J'irai comme on erre dans un musée. Un musée avec 200 ans d'histoire. 200 ans de petite mamie qui venait chercher un ustensile en bois, un couteau qui coupe bien, une ampoule dont la lumière jaune rappelle celle des bougies, de grandes jarres ou de délicats services de vaisselle. Comment je sais tout ça? Je l'ai lu sur les murs. Ici, tout aspire à nous aspirer dans le passé. Si la raquette à tapis est à 12,30 €, si les 8 bougies sont à 13,60 €, si l'étendoir pliant sur roulette est à 169,10 €, c'est parce que touristes, avec nos produits, on achète un bout d'histoire et de folklore marseillais. Et on sera fiers de les entreposer dans nos petits appartements parisiens. On dira, tu sais, je l'ai chiné dans une petite boutique 2 fois centenaire d'un quartier populaire adorable de Marseille. Ça fera bon effet sur les copains, c'est sûr. Sauf que pour les gens d'ici, c'est hors de prix. Au PMU d'en face, on me dit qu'il n'y a que les Marseillais des quartiers riches, ces touristes de l'intérieur, et puis les vrais touristes qui sont prêts à payer le prix. Le prix, c'est celui de la nostalgie, par amour des petites choses qui meublaient les maisons des classes populaires. Un collègue journaliste et marseillais m'a dit « Tu sais, augmenter les prix et changer de positionnement pour eux, c'était la seule manière de survivre alors que toutes les quincailleries populaires étaient en train de fermer. » Pour 150 euros, toutes charges comprises, tu peux dormir dans la maison de l'empereur. Un moment hors du temps, dans l'arrière-boutique, ils disent. La chambre peinte en noir est pleine de choses qui imitent la chambre d'un prolo d'un autre temps. Cet appartement est une invitation à entrer dans l'intimité de cette génération de quincaillers, ils disent. Les doigts encore gras d'avoir tripoté tant de savon, je monte à l'étage, tout en haut, où est niché un salon de thé. Je prends un thé froid, je m'installe sur l'une des tables, je suis seule. Tout est en bois, ou presque. Le marketing, ça marche. Je me sens transportée et alors que je suis montée dans l'idée de bosser sur quelques devoirs en retard, je me mets à scruter les murs, où sont entreposés de vieux objets et carnets de comptabilité derrière des vitres, comme au musée. Alors, à ce moment-là, quand, enivrée par l'ambiance, je passe ma tête par la fenêtre du salon de thé et j'observe en face de moi les appartements décrépits, la vaisselle qui s'amoncelle dans des cuisines sur lesquelles j'ai une vue directe, le linge au balcon, quelle différence entre moi et les touristes qui viennent en excursion sociale à Noailles.
Nassera Benmarnia, citoyenne marseillaise.
Vous avez aussi une activité militante à Marseille.
Alors, une activité militante depuis mon plus jeune âge, puisque mon papa était, mes parents étaient déjà issus d'immigration, très engagés. Et moi, depuis que j'ai 14 ans, j'accompagnais mon père dans ses actions, et notamment à travers des activités de solidarité telles que écrivain public, essentiellement ça, traduction. Je suivais mon père, il me mettait au bout de table dans ses réunions, et du coup... les gens qu'ils venaient voir me demandaient de leur écrire des lettres au pays, remplir les dossiers de sécu, pour ceux qui arrivaient à l'âge de retraite commencer. Donc très tôt, un pied très rapidement dans le réel et dans l'accompagnement des personnes en difficulté.
Comment il a évolué le quartier de Noailles ces dernières années ?
Moi, je dirais qu'il n'a pas évolué en bien concernant le quotidien des habitants, puisqu'on a eu le drame du 5 novembre qui a révélé... l'état réel, pas la vitrine de Noailles, mais ce qu'est réellement le quotidien pour les habitants de Noailles. Après, quoi vous dire d'autre ? Il suffit de se promener dans les rues de ce quartier, même si on voit de jolies boutiques ou des restaurants sympas s'ouvrir, tout ça n'améliore pas le quotidien des habitants. Je pense qu'aujourd'hui, les touristes, ce qu'ils viennent voir, c'est la carte postale marseillaise, où il y a le multiculturalisme, où les gens vivent bien, qu'il y a la mixité, que... Tout est beau, tout est sympa. Voilà, on a la mer, on a l'OM et on a le vivre ensemble. Donc ils viennent voir cette vitrine, ce côté carte postale qui a été bien vendu, mais qui n'est pas la réalité ni de ce quartier, ni la réalité marseillaise. Hein. Marseille est très, il y a une forme, j'utilisais peut-être un mot un peu fort, une forme d'apartheid. Où certaines parties de la population ne côtoient pas d'autres territoires marseillais et inversement. Donc Marseille, Noailles, son petit marché, il y a la Canebière qui est tout près, c'est populaire, donc il y a une certaine attirance pour ça. Donc oui, c'est sympa pour les gens qui viennent pour une semaine, mais le quotidien est peut-être un peu moins sympa. Et la transformation du quartier Noailles n'est pas faite pour que ces gens s'y maintiennent. Donc voilà, c'est ça la grande question et le grand défi à relever. C'est est-ce qu'on va être capable d'y créer une activité économique qui ne me dérange pas en soi ? Si cette activité économique ne s'adresse pas aux gens du cru, mais s'ils peuvent vivre de cette activité économique, que peut-être les embauches pourraient être réservées prioritairement à des gens de ce territoire, on pourrait... les former, on devrait mettre des clauses, des obligations. Tu viens créer une activité économique sur ce territoire, on est dans un territoire pauvre, peut-être qu'il faudra avoir obligation de regarder à une embauche prioritairement si on n'est pas sur des compétences très précises, enfin ici on est dans une comment dire, un commerce de service, hein, on peut former très rapidement les gens à la vente, au service, voilà.
Pourquoi ça n'avance pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, vous voyez, Marseille, notre quartier est foutu. Je ne sais pas combien de temps, mais on ne travaille pas du tout, on ne fait rien. On ne fait rien et on est désespéré. Oh. Ah, voilà. Fallait savoir que j'avais bloqué.
Ici, à la rue d'Aubagne, il y a eu des effondrements dramatiques avec des morts, avec des relogés parfois et surtout aussi des gens qui attendent encore, qui passent d'hôtel à hôtel. Est-ce que vous pouvez me raconter, vous, le jour même, comment ça s'est passé pour vous et depuis, comment vous essayez d'aider les gens qui ont été délogés?
Je reçois un coup de fil à 9h25 et on me dit, est-ce que tu es au courant, à côté de chez toi, il y a deux immeubles qui se sont effondrés. J'y vais avec la boule au ventre, quoi. Quel est l'immeuble? Est-ce que... Voilà. Et tout en me rendant à Noailles, donc j'appelle les deux associations qui travaillent sur ce territoire. Hervé, qui fait de l'accompagnement des mamans et du soutien scolaire, en lui disant, il y a l'effondrement de ces deux immeubles. Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent aux activités de soutien scolaire et qui habitent ces deux numéros de rue? Évidemment, il me dit oui. Il me dit, en plus, je viens croiser donc la maman. Et il me dit, je viens de la croiser à rentrer chez elle. Donc je lui dis, donne-moi son numéro, vite, je l'appelle. Et évidemment, elle ne répond pas au téléphone. Son corps a été retrouvé 5 jours après. Voilà, quoi dire d'autre, à part qu'on est tous scotchés. Et puis très rapidement, les gens là, qui n'ont jamais quitté ce secteur disent, il faut faire quelque chose, je ne sais pas quoi faire, mais il faut faire quelque chose. Je sais pas, dès l'après-midi, j'organise une collecte de vêtements, parce que je me dis, ceux qui sont partis de chez eux et qui sont vivants, forcément, de même pour retourner travailler, aller déposer les enfants à l'école, ils vont avoir besoin de vêtements, ils vont avoir besoin. Donc, je rappelle Hervé, je dis, on organise une collecte pour que les gens puissent se changer, puisque très rapidement, il y a eu le périmètre de sécurité. Les gens, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Donc, du coup, voilà, j'ai lancé la collecte. À côté de ça, donc, aussi, des habitants du quartier organisent une réunion, pas une réunion, une rencontre, un lieu où on puisse partager cet effroi. On était vraiment dans un état... Et donc, lundi, mardi, mercredi, il y a eu cette petite rencontre qui n'était pas petite, puisqu'il y avait plus de 300 personnes. Puis c'est là qu'est né le collectif du 5 novembre, en fait. Il ne faut pas oublier que quand même, cet immeuble avait été évacué 15 jours avant son effondrement. Donc, quand les gens sont évacués, parce qu'ils sont sur le périmètre où il y a des doutes, etc., et qu'on leur dit, après, il faut retourner chez vous, ils gardent en tête le fait que les autres aussi, on leur a dit, il faut retourner chez vous. Et ils sont morts d'avoir fait confiance aux institutions. Donc le doute perdure. Puis il y en a un qui est même assez violent, qui me dit, mais enfin, ils en rêvaient de ça. Qu'on puisse tous partir en courant. Et malheureusement, ce drame les sert. Parce que du coup, si on part tous, on va les laisser faire n'importe quoi et gentrifier définitivement ce quartier. Ils rêvaient de nous chasser, on a résisté. Et c'est maintenant qu'il faut qu'on soit fort de cette résistance. Parce qu'on ne peut pas leur faire cette fleur de partir en leur disant, ouais, proposez-nous un logement sécurisé. Non, ce n'est pas possible à admettre. Ils ne seront pas morts pour rien.
J'aime bien Marseille.
J'aime bien.
Ouais.
Oui, c'est joli. Il y a toutes les races ici.
Vous jetez jamais vos machines à coudre?
Non.
Vous en avez combien là dans la boutique?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a que 2 qui marchent. Le reste.
C'est pour la décoration?
Mais non, il faut que je donne à réparer. Si ça ne marche pas, on prend au moins j'ai l'autre. Bon, comme on a des difficultés financières, on attend. Bon. On ne sait pas d'où ils viennent, vous savez, ces petits voleurs-là. Bon, ça fait un peu mal au cœur, surtout quand ils volent aux touristes. Ça nous fait mal. Parce que dans une ville, il faut des touristes aussi. Il faut, s'il n'y a pas de touristes, c'est pas bon.
Pour le commerce?
Pour le commerce, pour tout. Bon, le commerce, je vais vous dire, moi, je ne travaille pas beaucoup avec les touristes, mais c'est agréable. Au Vieux-Port, vous voyez le petit train qui amène les touristes, Notre-Dame de la Garde, et puis les bateaux pleins des gens qui vont au Château d'If. Il faut. Où il n'y a pas de touristes, cette ville est morte. Il y a beaucoup de gens là qui les maisons, ça a été démoli, ils ont été en dehors de Marseille. On pleure quelques mois, après on s'habitue à tout dans la vie.
Même à quitter Noailles.
Même à quitter Noailles, moi je vous dis franchement, j'adore. Par moments je me dis, oh là là, j'ai mes voisins et tout et tout. Après tout je me dis, et quand ça klaxonne comme ça la nuit, je deviens folle, je me dis. C'est vrai que j'aimerais un endroit calme, calme. C'est vrai. Oui. Quitter Noailles, moi, ça ne me gêne pas. Hein? Bon, je suis à Noailles parce que j'ai mon travail. Vous ne trouvez pas que c'est un peu étouffant? Étouffant, les immeubles, un sur l'autre. C'est étouffant. Il n'y a pas assez d'air. Les gens, ils vont dans des quartiers que ça, c'est aéré. Et... il y a la verdure, il n'y a pas de verdure à Marseille, il n'y a rien. J'attends ma retraite, dans un an je m'en vais.
Vous avez quel âge, ça?
65.
65, donc quoi, 66?
66, je pars. Ben, je vous dis franchement, moi aussi j'ai l'envie de partir. Eh? Oui, oui, j'ai l'envie de partir. Pourtant, dans ce quartier, je reviens, ou je reviens, ou je ne reviens pas, je ne sais pas. Ouais.
On verra l'année prochaine.
On verra, on verra. C'est le temps qui nous dira.
Bon, allez, je vous laisse tranquille. Merci beaucoup.
Fini.
Ça y est.
Et que, où c'est que je vais passer, ça?
Sur Binge Audio.
Ah oui, je sais pas. Binge Audio.
Je quitte Silva et son petit atelier et je me rends en bas du quartier. Là, à toute heure, les odeurs de nourriture émanant des bui-bui présents depuis des années et des nouveaux restaurants à la mode pour les touristes embaument la rue. Le ventre de Marseille, c'est l'autre nom qu'on donne au quartier de Noailles. Dans le prochain épisode, on ira manger aux tables des riches et boire des verres chez les pauvres.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.